RMC, face aux grandes gueules.
C'est Fabien Antoniente qui est avec nous. Fabien Antoniente qui raconte sa vie dans Alors on n'attend pas Fabien. Le livre est aux éditions Stock. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Réalisateur de camping, de 3-0, de 4-0, de jet set, etc. Des grands succès populaires français de ces dernières années. Fabien, vous n'avez pas signé la tribune anti-Bolloré, pourquoi ?
D'abord parce que je ne m'ai pas parvenu, mais je ne sais pas comment ils font, mais
j'ai jamais
de tribune, moi. Donc. Puis je l'aurais pas signé parce que, vous savez, j'ai commencé mes courts-métrages dans les années, c'était les années 80. Mitterrand venait d'être élu au pouvoir. C'était les premières années de Canal. Et ils finançaient déjà les courts-métrages. Ils m'ont financé pratiquement toute ma vie. Je vois pas en quoi c'est légitime pour les.
Vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui face à ce qui est dit au risque de fascisme?
Mais je trouve que d'abord, ils financent pas. Hein, ce sont des préachats. Un préachat, c'est-à-dire que 6 mois après votre diffusion en salle, ils sont les premiers.
Ils achètent le droit de diffuser votre film avant les autres.
Voilà, en quelque sorte. Tout. Voilà. Donc c'est pas. Et donc ils financent toutes sortes de cinémas. Toutes sortes de cinémas. C'est très large.
Ce qui va marcher.
Je vois pas vraiment pourquoi on leur voudrait. Mais en plus, je cache pas que j'ai une amitié pour Maxime Saada, donc voilà.
Qui est le patron de Canal+, qui a répondu, qui visiblement était très énervé et qui disait, puisque je suis un crypto-fasciste, je travaillerai plus avec ces gens-là. Est-ce que ça a pas été un peu excessif comme réaction?
C'est-à-dire que c'est une manière de taper sur la table, je pense. Ce sera pas forcément à mon avis. Hein,
si il y aura pas de liste noire.
Non. Je pense que c'est pour dire, on siffle la fin de la récré.
Donc il faut calmer le jeu.
Voilà, je pense qu'il faut calmer le jeu. Puis dans les 600, j'en connais pas tant que ça, moi.
Dans les 600, ils sont pas tous dans le cinéma, quoi, en fait. Oui, c'est ça, pour embêtant.
Je peux vous dire. Ah oui. Bon, ils ont trouvé les 600, mais moi, j'en connais pas beaucoup.
Ouais. Ah oui.
J'ai regardé un peu. Ouais. Vite fait, mais.
Mais vous dites vous-même, vous inscrivez dans une ligne de cinéma populaire. Vous dites les pétitions, elles passent jamais par moi. Vous pensez qu'il y a deux cinémas aujourd'hui?
Oui. Moi, je vous parle de façon factuelle. Je ne vois jamais des tribunes. Alors je me dis à chaque fois que je vois des noms de Juliette Binoche, tout ça, je me dis c'est curieux. J'ai jamais été concerté pour.
C'est quoi? Il y a un cinéma qui vous ignore ou qui vous méprise?
Je sais pas. Je dois être dans un couloir de nage à part. Et ça me va.
Hein. Je crois que c'est
tout. Il n'y a pas du tout de.
C'est ce que disait Coluche. Hein. Coluche, il disait il y a le cinéma qui fait des entrées, le cinéma qui se refile des prix.
Ouais, c'est ça.
En résumé, quoi.
Mais qui vit d'ailleurs sur le dos du cinéma.
Moi, je fais partie du. Il y a ceux qui pensent à s'amuser, et ceux qui s'amusent à penser. Moi, je suis la première catégorie. Donc, j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle même les premiers festivals de courts-métrages qui avaient lieu à Clermont, qui ont toujours lieu au festival de Clermont. J'étais un peu à part et je dérangeais personne. Ça, ils s'amusaient avec moi, mais voilà. D'abord, j'ai toujours voulu faire ce sport qui est la comédie.
Ouais, surtout que c'est plus difficile de faire rire que de faire courir.
Qui a toujours été un peu mis de côté quand même, la comédie.
À une certaine époque.
Moins maintenant.
Maintenant, moins.
C'est ce que vous dites. Aujourd'hui, la comédie s'est démocratisée, vous dites. Beaucoup de producteurs se tournent vers ce genre, mais on ne fait pas de la comédie pour gagner de l'argent. Ah bon?
C'est-à-dire que si on pense à gagner de l'argent.
Ça marche pas.
Ça marche pas. C'est pas comme ça. Je pense que dans tous les domaines.
Toujours.
Dès qu'on veut gagner, par exemple, c'est un chanteur qui veut faire un tube. Non, pas de tube. Donc, il faut déjà être sincère dans sa façon de travailler, être impliqué, le faire comme un artisan. Et si, normalement, on fait tout bien, peut-être que le soleil s'éclaire.
Mais moi, ce que j'aime bien dans votre parcours, c'est le parcours de la méritocratie. On dit souvent qu'en France, aujourd'hui, l'ascenseur social est cassé. Vous démontrez, vous, dans votre parcours, que ça peut quand même fonctionner. On peut être parti d'un HLM, de pas avoir ses parents dans le cinéma, de pas et finalement, d'arriver à être l'un des réalisateurs les plus connus et qui a le plus de succès. C'est ça qui est fort dans votre parcours et qui est peut-être aussi un exemple à donner à des jeunes qui auraient envie de faire du cinéma et qui se disent, oui, mais moi, je connais personne, je suis pas à Paris.
Cinéma, c'est pour ça que
comment je vais faire?
C'est pour ça que j'ai un peu fait, parce que je me dis, souvent, on pose la question comment faut-il faire. D'abord, moi, je pense qu'il faut aller écouter battre son cœur et aller vers la fantaisie. Et à la finale, si on pense que l'aventure est dangereuse, Il faut savoir que la routine est mortelle. Donc moi, j'ai choisi l'aventure un peu plus dangereuse.
Et qu'est-ce qui a été le déclic ?
Alors, ce qui était dangereux, c'est-à-dire qu'on part, avec incertitude, parce que mon père ne voulait pas du tout que je fasse ça. Mm-hmm. J'avais fait des études d'optique assez poussées. Oui. Alors, ça a un vague rapport avec les instruments de précision, les focales et tout ça, mais j'ai fait ça pour faire plaisir à mon père. Et puis après, j'ai même été bosser pendant 6 mois au commissariat à l'énergie atomique, pour lui faire plaisir.
À Saclay.
À Saclay. Mm-hmm. Et séparation isotopique de l'uranium 235-238.
Il faut vous envoyer en Iran, Fabien, là, justement.
Vérifier le stock d'uranium.
Et là, les badges, la routine, la répétitivité des choses. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai choisi de partir au cinéma, ce que j'avais profondément envie. Ma mère m'a un petit peu couvert. Et puis voilà, les chambres de bonne, ce qu'on appelle la période des vaches enragées. En l'occurrence, le thon à la catalane, parce qu'elle me livrait des boîtes de thon à la catalane. Et un jour, au milieu de ces boîtes de thon, eh bien, il y avait des cahiers. Et alors, je sais pas pourquoi elle avait mis ces cahiers. C'était des cahiers qui appartenaient à mon père. Et à l'intérieur de ces cahiers, il y avait des plans de cinéma. En fait, il prenait des cours par correspondance pour faire du cinéma. Comme quoi, la vie, elle est toujours plus surprenante que l'on croit.
Petite question ou réflexion, après avoir lu le cinéma livre, regardez le livre sur Fabien Antoniente.
Le cinéma est venu à votre rencontre avant, parce que vous parlez du tournage des Demoiselles de Rochefort, vous séchez même les cours. Votre chaussette.
Oui, la morale, c'est acheter des chaussettes rouges.
Votre chaussette.
C'est pas les Demoiselles de Rochefort, c'est un film de Michel Audiard qui s'appelle Elle cause plus, elle flingue.
D'accord.
Parce que nous, on avait une cité HLM. En étant dans une cité HLM, il y avait une voie ferrée qui passait près de chez nous. Elle passait tellement près de chez nous que j'avais l'impression qu'on était une famille de garde-barrière. Mm-hmm. Et de l'autre côté, il y avait des bidonvilles où vivaient des Portugais, une grosse communauté portugaise qui économisait pour un jour s'acheter la maison de leur rêve. Et un jour, voilà, dans ce bidonville, je vois apparaître, comme dans les Demoiselles de Rochefort, un barnum. et là, des camions avec Michel Audiard, Bernard Blier, Annie Girardot et tous les acteurs qui étaient un peu à la mode, et une bande d'acteurs sympas. Et j'allais de plus en plus voir le tournage, moins en moins à l'école. Mm-hmm. Puis un jour, voilà, il y avait une scène où Jean Carmet tend sa chaussette à un personnage qui était censé être Jésus et lui dit: vous avez oublié ça cette nuit, la chaussette était grise. Donc Audiard est embêté, il vient vers moi, il me dit: gamin, est-ce qu'on pourrait prendre ta chaussette? J'avais des chaussettes rouges, et donc je tends ma chaussette, moteur, clap, action. Il se trouve que la chaussette était trop petite, elle faisait éclat de rire général, je faisais du 32, donc tout le monde était marre. Audiard revient me voir, il me dit: gamin, la chaussette, elle va pas faire l'affaire, mais tu pourras rester avec nous. Et je suis resté sur ce tournage.
Mais voilà. Je voulais vous dire, vous avez eu Cabelle est noire. Vous l'avez remarqué.
Tu viens de m'apercevoir.
Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas pour rien, parce que vous racontez cette anecdote dans votre livre en parlant de camping. Il dit, vous dites, mon humour est un doux mélange entre comédie et émotion où on peut tous s'autoriser. Dans Camping 3, Patrick a toutes les peines du monde à percevoir Robert, un jeune Camerounais dans l'obscurité. Désolé Robert, je ne t'avais pas vu. Désormais, c'est moins facile de blaguer sur ces sujets. Est-ce que vraiment, on peut plus blaguer sur ces sujets aujourd'hui ?
C'est touchy. C'est touchy parce que, bon, mais il y a aussi le savoir-faire de Franck. Parce que Franck Dubosc, quand il le fait, bon, il fait quelque chose comme ça. C'est pas très radiophonique, mais on voit ce jeune homme apparaître de l'obscurité. Je t'avais pas vu. Je trouve qu'aujourd'hui c'est plus compliqué parce que tout est étudié auparavant dans les maisons de prod. Ils lisent les scénarios. Ils disent mais alors là, ça va être embêtant. Cela. Donc
alors c'est pour ça que j'ai interpellé Abel pour savoir si justement lui ça te choque ou pas, ce genre d'humour ou pas comme ça.
Non, pas du tout. Moi je suis vous savez que moi je suis passionné de l'humour corrosif, très corrosif même, donc moi ça me dérange pas. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit de la personne.
Tout à fait.
Voilà. Mais malheureusement, on est dans une société où je pense que l'on peut rire de tout, mais plus avec tout le monde. Oui. C'est ça la problématique.
Ben donc, oui, si le mot n'est pas
autorisé, ce genre de vanne.
Mais monsieur Otoniente n'est pas raciste. Ben, donc, moi, j'ai pas de problème avec cela.
Plus, vous savez, moi, je viens d'une banlieue. C'est pour ça que j'aime le football. Je viens d'une banlieue où on se mélangeait tous. Et on se chambrait. Le foot, c'est l'école du chambrage. Mm-hmm. Il y avait les Renois, les Robeux, on se mélangeait tous. Bon, moi, j'étais parfois, ils me faisaient rentrer, j'étais remplaçant, ceci, cela. Et c'était la vanne permanente. Donc, moi, je viens d'une école où on vanne, c'est comme ça.
Mais vous regrettez qu'aujourd'hui, on ait peur de la vanne, quoi, c'est ça?
Peur, ouais, je, ah, oui, oui. Parfois.
Mais, c'est complète, c'est, moi, je
mais en fait, en ayant peur de la vanne, on s'expose à plus de choses.
Voilà. Ah, ouais. C'est là où j'allais en venir.
Faut y aller. Pour moi, faut y aller, puis quitte à prendre des risques. Parce que, l'humour, l'humour, c'est mieux quand c'est drôle. Tout simplement.
on est d'accord.
Et donc, c'est un gars qui marche sur une peau de banane. Il se fait mal, mais on peut rire. Ouais, c'est comme ça.
Et puis je trouve que pour moi, ça aide à désacraliser tout ce truc-là et ça aide à re-rassembler les gens. Je veux dire, moi, je fais partie de la population du monde qui est la plus discriminée. Je suis une femme et on prend cher en général dans les comédies. On est toujours soit l'intello moche, soit la bimbo un peu écervelée. Personne n'en meurt. Et c'est tout ça. Maintenant, moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est justement tout ce côté raillant que le cinéma dit classique, d'auteur, de bien-pensant, fait subir à la comédie française. Je veux dire, la comédie française, elle nous est enviée dans le monde entier. Les gens rachètent les scénarios de nos scénaristes. On nous rachète nos films tellement ils sont bons. Et moi, ça me fait de la peine. Là, je vois au Festival de Cannes, c'est un entre-soi. Je veux dire,
pas suffisamment de comédie.
Ben
pas suffisamment,
non, ils ont été quand même obligés de faire leur propre festival. En mémoire, le seul qui a vraiment eu sa place au Festival de Cannes en termes d'humour, c'est un petit truc en plus. Et pourquoi? Bah parce que pour le cinéma un peu bobo gaucho, bah oui, mais là, du coup, on met des handicapés. Alors, du coup, ça passe. Ça passe. C'est pas un truc populaire. Parce que, pardon, mais ils vivent quand même qu'entre eux. Et les trucs de populace, et ben, on se l'écarte et on va au Festival de Cannes.
C'est un paradoxe parce que c'est quand même les comédies françaises qui font vivre le cinéma français. C'est ce qui marche le mieux aussi dans les salles, depuis d'ailleurs toujours. C'est ça qui fait tourner le système. Hein. C'est le succès qui permet de produire des films plus difficiles. Et d'ailleurs, il est plutôt vertueux, ce système. Mais il y a toujours ce mépris.
Je trouve que maintenant, il y a de moins en moins de mépris. Il y en a un qui a passé le guet, c'est Franck Dubosc.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Il a été accepté, Franck Dubosc.
Avec un ours dans le Jura, voilà, avec son film.
Il a passé le guet, puis en plus, il a
eu le César du meilleur scénario.
Le film a été très réussi.
Ouais.
Comme Coluche avec Ciao Panté à l'époque.
Je vous entendais parler parce que Coluche, il avait une façon de présenter les choses, ce qui fait qu'on pouvait pas le dénoncer. C'était son père. Mon père disait toujours les Noirs. Alors donc ça passait avec le père. Le père, il en a pris plein le dos. Hein. Mais c'est voilà, ça dépend comment on présente le plat.
Bien sûr.
Mais par rapport à ce que disait Laurent, vous êtes déjà allé à Cannes ou pas?
Oui, oui, oui.
Et quand vous y êtes, vous vous sentez comment?
Je me sens toujours. J'y vais toujours en marche parce que je suis pas en compétition ni hors compétition. Mais bon, voilà, j'y vais. Les gens sont. Ça permet de faire quelques rendez-vous.
C'est aussi un marché, il faut rappeler.
Faire quelques rendez-vous.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une comédie.
Mais il pourrait y avoir presque une comédie sur Cannes. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que à Cannes, c'est quand on observe, c'est balzacien. C'est un territoire fantastique pour raconter des histoires, parce que les gens sont toujours épuisés. Et quand ils vous voient. Quand il vous voit à Paris, il dit on se voit à Cannes, ce sera mieux. Et puis quand il vous voit à Cannes, on se voit à Paris, on sera plus au Cannes. Ce qui fait qu'on se voit jamais en fait. C'est comme ça. Mais c'est cette comédie qu'il faut savoir aussi lire parce que les acteurs du cinéma sont assez drôles à regarder.
Mmh. Bon, ouais.
À écouter aussi.
Alors d'abord on a une passion pour Robert Charlebois qui est commune. Donc moi c'était plutôt Je t'aime comme un fou que j'adorais. Comme
ah, j'adore. Je t'aime comme un fou.
Et tout de suite, on y était, là. Moi, j'étais en concert.
Mais il faut l'accent un peu. T'es un peu l'accent.
Moi, je pense que c'est Fabien comme Francis Weber, comme Georges Lautner, avec qui j'ai eu la chance de travailler. C'est des gens qu'il faut. Georges n'est plus là, mais ils sont précieux. Ils sont précieux parce que. Ils font ce qu'il y a de plus dur, parce qu'il y a plein de crétins qui pensent que faire du populaire, c'est facile, et qu'il suffit de mettre des recettes. Ah, on met un peu de ci, on met un peu de ça, on va mettre, comme tu disais, une nana comme ci, comme ça, et ça va marcher. Non, pour faire du populaire, il faut un vrai talent. Mais ce problème, c'est que ce talent n'est pas reconnu. C'est très dur de faire rire les gens, c'est très très dur. C'est très dur de leur faire oublier leurs soucis, le temps d'un film. Et c'est très dur aussi qu'ils aient envie de revoir le film. Parce qu'une comédie, moi je ne vais pas parler d'un livre de toi, d'un film de toi, mais par exemple, Le Dîner de cons, j'ai dû le voir 50 fois.
Ah,
50 fois, je
pense qu'on est sur les mêmes scores.
Voilà. Et les films de Fabien, ils ont beaucoup d'humilité. La seule prétention et la seule angoisse dans ces films, c'est que les gens se distraient. Et je trouve que c'est une noble prétention, une noble angoisse. Et à côté de ça, il y a une espèce de mépris. Je voulais savoir comment tu vis, toi, ce mépris du cinéma, alors que tu fais, t'es un acteur à part entière, et sûrement beaucoup plus d'autres qui sont subventionnés, un acteur à part entière, tu es quelqu'un qui amène les gens dans les salles de cinéma, donc qui développe le cinéma dans le pays, et pourtant t'es reconnu par personne, t'auras jamais une palme d'or, oh. Parce que, ben oui, mais c'est comme ça, parce que tu fais, tu as le gros défaut d'aimer les gens et de faire du populaire, donc forcément, puisque ce que tu fais est populaire, forcément tu n'as pas de talent.
Oui, c'est ça, bon, vous savez, j'ai appris à vivre avec, comme apprivoiser, hein. On apprivoise parfois le mépris comme on apprivoise un chien, mais j'ai une certaine volupté à être pris pour un imbécile, moi. Donc
pourquoi vous en tirez une la
non parce que je vois qui me traite d'imbécile, mais je m'amuse aussi de tout ça. Par contre, c'est vrai que on se rend pas compte, c'est comme une chanson. C'est pas facile de faire une chanson qui reste, d'utiliser des mots simples. Parfois il y en a qui tartinent, comme on dit. Moi je préfère quand c'est sobre, au bon moment. C'est un travail que les gens ne soupçonnent pas, mais et c'est la précision du travail de la comédie qui a.
Il n'y a pas de recette, c'est du talent.
Votre prochain film, il y a un film en tournage en ce moment, en préparation.
Je prépare un film, ouais, sur le thème des randos et surtout la détox digitale, parce que on est quand même un petit peu.
Donc c'est des gens qui partent en rando mais sans leur portable, alors.
Qui essayent.
Qui essayent. Ouais.
Et c'est pas évident parce qu'on est tous envahis par.
Le casting est prêt.
Non, on n'est pas encore en train de travailler. Ouais.
D'accord. Mais juste. On va terminer quand même avec ça.
Alors,
on attend
pas Patrick.
C'est devenu une.
Ouais, c'est devenu une réplique dans le langage courant maintenant.
C'est culte.
Moi, je l'ai dit.
C'est vous qui l'aviez trouvé celle-là ou pas?
Eh bien, c'est Franck qui l'a trouvé parce qu'en fait, à l'apéro, ce fameux apéro où on démarre les vacances, pastis partant bleu, pastis délicieux, tout le monde est là, il en manque un. Et donc, c'est là-dessus que Franck est arrivé en disant, alors, on n'attend pas Patrick. Attention, Patrick, il faut bien le dire, hein. C'est comme vient de dire Mourad. C'est, il faut deux ou trois cas pour que ce soit bien. Et ça fait Patrick. Avec le mouvement de tête. Et puis, ça a été pris vite, les enfants s'en sont vite emparés.
C'est ça, mais c'est pour ça que c'est les enfants qui ont fait
aimer le film.
Il y a tout. Quand il est avec son gros main, moi, je pleure. Larry Corée. Mais j'en peux plus.
Et bingo.
Et là où il y a du talent, c'est que je suis certain que quand ils font cette réplique, ils n'ont pas idée qu'elle deviendra culte.
Pas bien sûr.
Exactement.
C'est là où il y a le talent.
Pas avant. C'est vrai.
Ça se commande pas.
Là où c'est pas, c'est parce que tu.
Par exemple, vous savez, j'apprends qu'aujourd'hui les gens quand ils veulent sortir et s'éclater, et ils disent, ça va être du grand Mendes. Et ce grand Mendes, quand on l'a écrit, nous, c'était un garagiste qui dit ça va être du grand Mendes. Mais maintenant, c'est rentré dans le langage populaire et on en est ravis parce que on est rentré dans l'histoire des gens.
Merci. 4, il y en aura jamais. Hein.
C'est difficile pour Franck de remettre le boule-bite à un certain âge.
Lisez l'histoire de Fabien Antoniente, ça se déguste comme un bon film, bonne comédie populaire. Fabien Antoniente qui est passé voir les GG, alors on n'attend pas Fabien, du HLM au box-office, le livre est aux éditions Stock. Merci Fabien d'être passé par
merci de votre accueil.
Merci de passer par les GG.